Bonjour, bienvenue en action, notre podcast Activité physique et santé. Aujourd'hui, on rencontre Kevin Arsenault. Kevin Arsenault, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mon bac. Il est kinésiologue, il a un bac en nutrition. Il a fait une maîtrise en kinésiologie aussi. C'est un auteur de livres sur la planification de l'entraînement. Bonjour Kevin, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui.
Merci Dan, comment ça va?
Très bien, toi?
Oui, super bien.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, on va parler de prise de masse musculaire. Fait que ma première question est super simple. C'est quoi les avantages de prendre de la masse musculaire?
Ben en fait, Dan, les avantages de prendre de la masse musculaire, la majorité des gens le font avec un souci d'esthétisme, donc ils veulent aller augmenter la masse musculaire. Est-ce qu'il y a des bénéfices autres que de juste prendre la masse musculaire? Ben c'est tout dépendant de la personne, quel est son âge, quel est son mode de vie. Une personne qui va être un sportif, un joueur de football, par exemple, on s'entend, un joueur de hockey, c'est sa protection. Donc, d'avoir un gain de masse musculaire, il ne le fait pas pour l'esthétisme. Il va le faire vraiment pour améliorer sa réduction de sa protection au niveau des blessures. Il ne voudra pas se blesser plus. Il y a une masse musculaire qui va être imposante. Plus ça va être favorable pour lui. Donc là, on s'entraîne pour gagner la masse musculaire pour un intérêt sportif. Au même terme que la personne âgée va vouloir avoir une bonne masse musculaire. C'est sûr que l'idéal, c'est de la développer avant d'arriver à 60-70 ans. Pour améliorer son autonomie, parce que plus j'ai une masse musculaire, plus j'ai des fibres musculaires qui vont être importantes, parce qu'on s'entend à partir de 40 ans, on commence à avoir ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est une diminution de la masse musculaire, une atrophie musculaire qui commence à se faire sentir dans le temps. Et au bout de 70 ou 80 ans, si on ne maintient pas cette masse musculaire-là, bien là, on va perdre l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne. Puis c'est encore plus présent chez les femmes qui sont de 75 ans. Le ratio est environ 3 femmes sur 4 de 75 ans et plus n'est pas capable de lever 10 livres, donc une poche de patates, une poche. Donc, ce qui fait que la masse musculaire, c'est l'autonomie pour être pour plus tard. Donc, pour moi, la prise de masse musculaire, même si elle n'est pas excessive, elle est importante pour l'autonomie, surtout chez les femmes. Mais c'est vrai que dans la jeunesse, les 20, 30, on le prend pour l'identité, pour l'apparence. Il y a un côté bien-être aussi là-dedans. Je pense que la majorité des gens le font de façon saine, mais c'est pas outre que les sportifs là, de compétition de culturistes là, qui, eux, en font un leur sport a priori.
Évidemment, il y a beaucoup de monde qui aimerait ça prendre de la masse musculaire. C'est quoi les meilleures méthodes pour réussir à en prendre de la masse musculaire?
Oui, ça c'est la question. Parce que c'est tellement... C'est pas unifactoriel, donc c'est pas une façon de faire, tu fais ça, il va arriver ça. Je veux dire, une voiture roule avec 4 roues, pas juste avec une. Fait qu'il faut que tu agences plein d'éléments pour être capable de te permettre de gagner de la masse musculaire. Fait que, c'est sûr qu'on a tous une prédisposition génétique aussi à prendre la masse musculaire. On connaît certains types de physique. Là, c'est peut-être des mots que vous avez plus ou moins entendu parler. On parle d'ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Donc, un type plus longiligne, donc le coureur de marathon, ça, c'est plus le type ectomorphe. Un mésomorphe, c'est plus musculaire. Fait que c'est vraiment un joueur de football, un joueur de hockey qui est présent. Puis un endomorphe, c'est une personne qui est plus grasse. T'sais? Puis on a souvent des hybrides, on est mélangé là-dedans. On a des caractéristiques de un, de l'autre. Mais il y a des gens, je veux dire, un joueur de football de ligue, sur la ligne en avant, offensive ou défensive, on ne peut pas lui demander d'aller courir un marathon. Donc, ça veut dire qu'il y a un physique qui n'est pas fait pour le sport de marathon et vice-versa. Je n'enverrai pas un marathonien sur la ligne de football. Il va, donc, ça fait que même si le marathonien veut gagner de la masse musculaire, sa prédisposition génétique va le ralentir. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable, c'est juste ça va le ralentir. Ça fait que déjà là, il faut admettre si on a un grand potentiel ou non. Puis plus le potentiel est faible, plus il faut enligner et mettre de concert plein de facteurs pour être capable de gagner de la masse musculaire, que ce soit le sommeil, que ce soit le stress, l'alimentation, l'entraînement. Fait que, tous ces éléments-là doivent faire partie de l'équation. C'est sûr que l'entraînement va être la priorité. Tu as beau prendre des protéines, puis regarder la télévision, ça ne marchera pas, il faut un stimulus.
Non! Tu défends nos espoirs aujourd'hui.
C'est pas des stéroïdes anabolisants, c'est un peu ça qui peut se produire, par contre. Là. C'est ce qui se passe aussi avec avec l'adolescence. Là. Les hormones augmentent, plus la croissance musculaire qui fait une traction sur le muscle. Donc, le muscle se crée des micro-déchirures parce que les os poussent. Plus l'augmentation des hormones fait une augmentation de la masse musculaire. Les adolescents prennent la masse musculaire sans rien faire. Mais à l'âge adulte, il faut plus que ça. Fait que ce qui fait qu'il faut avoir un stimulus d'entraînement, ça se passe à la maison, en salle. Puis plus on va avancer en entraînement, plus le stimulus doit être encore là peaufiné parce que plus le muscle est adapté. Donc, plus le muscle est capable d'en prendre, plus il faut lui en donner pour être capable de continuer à avoir des gains. Parce qu'on s'entend, une personne qui a une certaine masse musculaire de base, disons une personne qui pèse 150, 160 livres, généralement, naturellement, là, il faut aller chercher un 20 à 30 livres de masse maigre, là, donc de masse musculaire. Une personne qui ne s'est jamais entraînée à 160 livres pourrait voir dans les 2, 3, 5, 10 ans à venir, un monter de 20 à 30 livres. Donc, passer de 160 okay. à 180, 185, c'est naturellement possible. Mais au-delà de ça, ça commence à être plus, il faut des génétiques plus favorables. Donc, l'entraînement, c'est sûr que l'idéal pour prendre la masse musculaire à l'entraînement, il y a trois façons qu'il faut utiliser pour y arriver. La première façon, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. Donc, il faut créer une tension sur le muscle. Donc, c'est de prendre une charge, que ce soit un poids, un kettlebell, une barre. Il faut créer une tension au niveau musculaire. Puis, en vrai, c'est lui qui est le plus déterminant. Plus la tension va être élevée, plus on va être capable de prendre des charges lourdes, plus on va être capable d'avoir un potentiel d'hypertrophie, donc un gain de masse musculaire qui va s'en suivre. Au début, c'est facile. Tu ne fais pas beaucoup de séries avec une charge, puis tu as déjà des gains qui s'améliorent. Mais plus ça va, plus ton muscle est capable d'en prendre. Avant, tu faisais juste un exercice, il y avait des courbatures. Oh, après ça, tu es capable d'en prendre deux, trois. Là, il faut que tu joues avec les techniques d'entraînement. Fait que dès que le corps s'adapte, il faut que tu sois capable d'aller chercher ce petit gain supplémentaire-là. Donc, la tension, plus elle est élevée, plus elle donne des bénéfices. Mais une personne qui est débutante en entraînement ne peut pas prendre des charges élevées parce que ses structures ne sont pas faites pour supporter ça, donc il va se blesser. Donc, il faut vraiment avoir le début d'entraînement, donc vraiment un souci de progression pour en venir à mettre des charges plus imposantes. Et le début, il va tout avoir des adaptations nerveuses qui vont se faire. Donc, tu sais, là, il y a différents, tout dépendant de l'individu, une personne qui commence à s'entraîner, il ne faut pas sauter des étapes, il faut vraiment y aller progressivement, augmenter la fréquence d'entraînement, puis pour y aller de façon sécuritaire. Mais une fois qu'une personne est entraînée, plus intermédiaire avancée, là, on peut mettre de la tension, donc être capable de stimuler le muscle avec une forte tension musculaire, donc des charges plus importantes qui vont aller vers le 80%, exemple du... J'aime bien dans les entraînements commencer, quand le système nerveux est frais, commencer avec un exercice plus pesant pour aller chercher cette tension mécanique-là. Puis après ça, poursuivre l'entraînement avec d'autres facettes. Fait que, tu sais, premier aspect, la tension mécanique, on veut mettre de la charge, mais pour ça, il faut suivre la progression pour s'y rendre. Deuxième aspect qu'on peut aller faire pour gagner de la masse musculaire, c'est le stress métabolique. Donc, on peut gagner de la masse musculaire en engageant un stress qui va être métabolique sur le corps. Ce que je veux dire, c'est que si, exemple, on fait trois exercices de jambes, un à la suite de l'autre, donc on va faire du squat, du leg press, des lunges, ça ne crée pas une tension nécessairement élevée, même si on prend des charges 12 répétitions, par exemple, ce n'est pas la charge la plus élevée, mais l'accumulation de cette série d'exercices-là va créer un stress sur le corps, une génération de déchets métaboliques, du lactate, etc., une acidité qui va être présente. Le corps doit lutter contre ça, il va créer des modifications, puis ça va activer certains signaux pour propulser la masse musculaire. Donc, ce qui fait que ça va aider aussi. Ce n'est pas le facteur principal, mais ça peut aider la masse musculaire.
Est-ce que là-dedans... Mettons, mon alimentation juste avant cet entraînement-là, mettons, tu fais parce que ce que je comprends, c'est que c'est un entraînement dans lequel tu vas faire un certain volume d'entraînement sur un groupe ouais. musculaire précis pour accumuler des déchets métaboliques, etc. Est-ce que tu vas jouer avec ton alimentation en plus pour bonifier ça, pour, mettons, créer encore plus de stress métabolique?
Tu ne créeras pas plus de stress métabolique avec l'alimentation. Non. Tu vas créer du stress métabolique avec les exercices.
Mais mettons, si, exemple, je fais cet entraînement-là à jeun, mettons. Tu sais, comme là, je pars avec pas de glucides, puis là, est-ce que ça peut me.
Le stress métabolique va être fort. Le stress métabolique va être similaire, c'est juste que tes performances risquent d'être diminuées, tout dépendant de tes réserves de sucre dans ton muscle, tes réserves de glycogène, à quel niveau elles sont. Tu peux être à jeun, mais que tu as bien mangé la veille, puis ce qui fait que tu es capable de très bien supporter un effort d'un entraînement d'une heure le matin. Là. Des fois, les performances ne seront même pas atteintes. Là. C'est sûr que si on va faire des entraînements plus longs de deux heures, ce que je ne recommande pas nécessairement, là, les performances pourraient diminuer. Mais un entraînement à jeun pourrait... Encore là, c'est l'adaptation à chacun, voir un peu comment la personne va réagir à ça. Mais ce n'est pas ça qui va créer plus de stress métabolique. C'est vraiment la combinaison, l'agencement des exercices. Si on fait, exemple, là, au lieu de faire une série de 10, je ne sais pas moi, tu fais 5 répétitions, tu tiens 5 secondes à mi-chemin, 4 répétitions, 4 secondes à mi-chemin, 3 répétitions, 3 secondes. Là, ce qui fait que ça s'accumule en étant sous tension, ça va créer un stress métabolique. Fait que c'est une stratégie qu'on peut utiliser dans l'entraînement pour se faire. Fait que c'est vraiment les deux volets principaux là, que tu veux des charges plus lourdes dans l'intérieur de ton entraînement. des charges qui vont te demander une certaine difficulté. Puis après ça, tu vas créer un stress métabolique. Fait que tu vas des super séries, des triséries, des entraînements circuits. Puis il y a plein de variantes d'exercices, là, comme tu l'as mentionné dans la présentation. J'ai écrit un livre, en vrai, sur les stratégies pour être capable de créer un programme d'entraînement avec une diversité. Là. Fait qu'il y en a énormément.
Est-ce que quand tu parles de stress métabolique, mettons, je dis faire la chaise, là, tenir la chaise au mur, le bon vieux exercice, c'est un peu dans ce style-là, cette idée-là, mettons.
Exact. Fait que là, si tu tiens la chaise pendant une minute trente, ça crée un stress métabolique. Ça ne crée pas une forte tension musculaire, mais ça va créer un stress. Puis ce stress-là peut provoquer des gains. C'est sûr que la chaise, par exemple, va provoquer un stress, mais le corps va s'adapter vite à ce stress-là parce que la charge n'est pas si élevée, l'engagement des fibres, c'est des fibres qui ont une bonne capacité à la fatigue. Fait que ça fait qu'au début, c'est un choc pour eux, c'est un stress, mais après ça, elles s'adaptent. Puis là, la gain de masse musculaire a un certain plafond. C'est pour ça que le facteur principal dans le gain de masse musculaire, c'est la tension mécanique. Parce qu'elle, on peut toujours augmenter la charge, puis c'est elle qui va causer le plus de dommages musculaires, puis c'est elle qui va recruter les fibres qui peuvent prendre, qui ont le plus grand potentiel d'hypertrophie, donc d'augmentation de la masse musculaire. Fait que ça fait que la chaise va créer un stress métabolique, mais c'est ça le point, là, c'est qu'il y a un aspect limité dans... juste faire du stress métabolique. Que je prenne deux exercices, fais deux supersets à la suite, je fais des séries de 12, des séries de 10, ensemble, encore un stress. Ben là, ça génère, oui, une activation pour gagner de la masse musculaire, mais ça plafonne une fois, oui, mais ça plafonne vite dans le temps en termes d'adaptation dans les semaines, les mois à venir.
Oui.
Puis après ça, le troisième point, ben, c'est un peu la résultante de tout ça, c'est d'aller chercher des dommages musculaires. Fait qu'on veut avoir certains dommages musculaires, des micro-déchirures qu'on appelle, pour être capable de reconstruire le muscle. Mais ce n'est pas parce qu'on a des micro-déchirures qu'on a assurément un gain de masse musculaire. Je veux dire, si on me plante un couteau dans le bras, la récupération, j'ai des déchirures musculaires, des très grosses des déchirures. Le corps va récupérer, mais je n'aurai pas un plus gros biceps par la suite. Le corps va refaire juste la structure identique. Donc, je pourrais avoir un entraînement qui va me causer des micro-déchirures, mais parce que mon environnement n'est pas favorable, parce que je ne mange pas suffisamment de calories, de protéines, je ne bois pas assez d'eau, je suis stressé, je ne dors pas bien, tout cet environnement-là fait que ben, mon muscle n'est pas capable de surcompenser, il va juste aller rechercher le même niveau initial. Fait que c'est pour ça que c'est là que c'est touché dans l'entraînement, parce qu'on peut causer des dommages, puis causer une activation pour gagner la masse musculaire, mais si le reste ne suit pas, ben, on n'est pas capable d'aller chercher ce gain-là qu'on est supposé avoir. T'sais, l'objectif, c'est de créer une fatigue. Là, ça va chercher un gain. On s'entraîne encore, on crée une fatigue. Là, on va chercher un gain, on s'entraîne. Là, on a une forte tendance à la croissance. Mais si je m'entraîne, je crée une fatigue, puis là, il y a une compensation qui commence à se faire, mais je ne m'entraîne pas tout de suite encore le même gros musculaire, puis je reviens à mon niveau de base. Exemple, que je m'entraîne aux 10 jours. Ben là, ce qui fait que je reste sur un plateau parce que je ne saisis pas ce moment-là. Fait que c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut se faire encadrer. Des fois, c'est facile de se faire nos propres programmes, mais il y a tellement d'aspects qu'il faut mettre ensemble pour être capable de dire, OK, là, tu veux gagner de la masse musculaire, il faut aller, tu sais, il faut concevoir le programme de la bonne façon, puis il faut regarder ton hygiène de vie. Un programme seul, ça vaut ce que ça vaut.
Bien, tu parles de déchirure musculaire, ça m'amène à penser à la course à pied, qui est un domaine que je connais plus. Là. Mais tu sais, mettons, je vais courir 10 km, ça fait longtemps que je n'ai pas couru, je suis courbaturé après, ben j'ai plein de déchirures musculaires, mais je ne gagnerai pas de masse avec ça. Là. Fait que, c'est,
exactement.
La déchirure musculaire en elle-même, c'est rien de magique. Là. C'est beaucoup relié au temps sous tension ou à la... L'important, c'est-tu le temps sous tension ou est-ce que c'est la force d'attention dans ton premier point?
La tension mécanique, c'est la force de la tension. C'est la tension à l'intérieur du muscle. C'est elle qui va causer le plus de dommages, en vrai.
Ouais.
Puis après ça, les courbatures musculaires vont être la résultante. Là. Fait comme tu viens de le dire, c'est pas assuré parce que tu peux avoir des courbatures dans des fibres d'endurance qui, eux, ne peuvent pas prendre grand masse musculaire. Elles peuvent en prendre un peu au début. Mais elles vont gagner, elles vont récupérer. Mais ce ne sera pas ça qui va faire la différence sur ta masse musculaire que tu veux aller chercher réellement. Fait que c'est juste pas les bonnes fibres dans lesquelles tu sens les douleurs. Là. Un petit point que tu me fais penser, parce que les douleurs musculaires, souvent les gens remarquent que lorsqu'ils ont terminé un entraînement, deux jours après, les douleurs musculaires augmentent davantage. Fait que c'est un fait particulier et intéressant quand même que je voulais noter, tu me l'as fait penser en parlant. C'est lorsqu'on s'entraîne, on crée des bris musculaires sur le muscle directement, donc il y a des fibres musculaires qui sont endommagées et ça perturbe les fibres avoisinantes, donc les petites fibres musculaires qui se chevauchent. Ben là, elles, qu'est-ce qui va arriver? Vu qu'elles sont perturbées, elles ne sont pas capables d'amener tous les éléments pour se contracter, etc. Donc, elles vont mourir. Donc, ce qui fait qu'on a des douleurs souvent la journée même, dues à l'entraînement. Mais 48 heures après, là, on a la douleur de la mort cellulaire des autres fibres autour qui, eux, ont perdu la capacité de se contracter à cause qu'on a endommagé. Ce qui fait que le corps va récupérer toute la région musculaire. Fait que là, on a les douleurs qui augmentent parce qu'il y a un cumul de fibres musculaires qui viennent à être lésées. Après ça, là, la douleur rediminue pour compenser. C'est un peu ça, cet effet de 48 heures post-entraînement des courbatures qui augmentent.
OK, crème, c'est intéressant.
Qui est présent surtout chez les débutants.
Parlant de débutants, mettons, je commence, mettons, ça fait un mois, deux mois que je fais de la musculation, mettons, en général, je vais au gym, je fais un petit peu de chaque exercice de façon, mettons, non structurée, là, je vais juste au gym pour comme me remettre en forme. Puis là, je décide que je veux commencer à prendre de la masse musculaire. Ça ressemblerait à quoi un programme, mettons, typique pour toi? Est-ce que je fais-tu 6-12 répétitions? Je fais-tu 1 à 5 répétitions? Comment on organise ça? Est-ce que je vais faire la chaise? Ou comment t'organiserais ça?
Là, tu serais dans un gym?
Mettons que je suis dans un gym.
Ouais. Ça dépend. Là, ton expérience en entraînement, si tu es très, très, très débutant, je commencerais. Si on pourrait commencer. T'sais, c'est l'adaptation face au client. Une personne qui est débutante, mais qui n'a jamais fait de sport de sa vie, puis une personne qui est débutante en entraînement, mais qui a fait du sport toute sa vie, on n'a pas le même débutant entre les mains. Donc, on a une personne qui est débutante en musculation, mais qui a un muscle qui a travaillé souvent dans sa vie. Donc, ça fait que je peux lui donner déjà une capacité plus élevée à l'entraînement versus quelqu'un qui était dans un travail de bureau toutes les 20 dernières années. Donc, ça fait que si je prends pour acquis que tu es une personne active, tu arrives à l'entraînement, puis là, tu es prêt à t'entraîner, mais tu as déjà eu du mouvement au niveau musculaire, tu étais sportif, bien, c'est sûr que le premier bon à faire, ça serait de faire un push-pull-leg, qu'on appelle. Donc, un entraînement qu'on va entraîner l'ensemble des groupes qui poussent, donc les épaules, les triceps, les pectoraux qui vont être là. Puis une journée qui va être du tirage, on va travailler le dos, c'est les grands dorsaux, le haut du dos, et biceps avant-bras, puis une autre journée, c'est plus les jambes. Donc, quad, ischio, fessier, mollet qui peut être travaillé, avec les adductables. Donc, on vient travailler ces trois régions-là. Puis après ça, quand la personne prend de l'expérience, ben là, on peut passer, tout dépendant de ses disponibilités, à du 4 jours semaine. Fait qu'on fait un split qu'on appelle, donc une division des journées d'entraînement en 4. Puis une personne peut, 5 fois par semaine, c'est l'optimum au niveau pour le gain de masse musculaire, parce qu'on peut vraiment bien répartir les groupes musculaires pour les travailler dans leur ensemble. Parce que souvent, moins on fait de journée, plus il faut condenser le travail de groupe musculaire en même temps. Donc, si je fais les pecs en même temps que les épaules, en même temps que les triceps, en même temps, ce qui fait qu'à un moment donné, il me reste, si je ne veux pas que ma séance dure 2 heures, bien, j'enlève des exercices, j'enlève la capacité. Ce qui fait que je travaille moins. Si je m'entraîne, exemple, 5 fois semaine, bien, quand je fais mes pectoraux, ben là, quand je fais un bench press, par exemple, mes pectoraux, mes épaules, mes triceps vont travailler. Ben après ça, dans ma semaine, plus loin, je travaille mes épaules. Mais là, quand je fais un press, ben là, mon épaule travaille, mon tricep va retravailler une deuxième fois. Quand je fais mes triceps, si je fais un close grip bench press, exemple, ben là, mes pecs... Donc là, il y a une meilleure fréquence de l'entraînement de tous les groupes musculaires qui sont interreliés. Puis les gains sont supérieurs là-dessus. Puis surtout qu'on peut introduire souvent des groupes musculaires qui sont sous-sollicités dans l'ensemble des programmes que je peux voir, parce que sur 5 jours semaine, on peut vraiment faire ce qu'on appelle les antagonistes. Les antagonistes, c'est les muscles opposés. Souvent, on va penser que faire les pectoraux, l'opposé, c'est faire du dos. Ce qui fait que lorsque je fais du bench press, je vais compenser, puis je vais aller faire du lat pull down, des choses comme ça, mais les deux sont des rotateurs internes. Ils viennent s'attacher sur l'humérus par l'intérieur. Ils font les deux la rotation interne de l'épaule. Si je pousse vers le haut, ça, c'est des épaules. Quand je tire vers le bas, le mouvement opposé, là, c'est le dos. Donc, le grand dorsal est le muscle opposé aux épaules. Si je fais du bench press, je pousse, c'est les pecs. Si je tire à l'inverse, là, on est dans le haut du dos. Donc, on appelle les trapèzes moyens, les rhomboïdes de derrière l'épaule. Ouais. Donc, c'est ça, les muscles antagonistes. Souvent, le haut du dos est très sous-sollicité. Fait que c'est, les gens, quand ils font leur entraînement de dos, vont faire des pull-ups, vont faire du seated row, donc du tirage assis, vont faire des tractions à la barre. Mais c'est que du dos, c'est que des grands dorsaux. Ouais. Le haut dos est très, très peu stimulé.
Je comprends.
Trapèzes inférieurs, des choses comme ça qu'il faut aller travailler. La coiffe des rotateurs fait partie du haut du dos aussi. C'est tous des rotateurs externes, donc il faut aller les solliciter. Puis un entraînement 5 jours semaine permet de mettre l'emphase là-dessus parce qu'on est capable vraiment de les travailler. Même terme que pour les jambes, les fessiers, c'est vraiment sous-sollicité dans l'entraînement, surtout des gars. Je pense que les gars associent vraiment les fesses aux entraînements pour les femmes. Au contraire, plus tu vas avoir un fessier qui va être fort, plus ton squat va être élevé. Donc, c'est pas de... Faisant de la machine à abduction qu'on va venir ouvrir, faisant du hip thrust, donc la barre qui est sur les hanches, les épaules sur un banc, puis on vient faire le pont, on vient lever. Les exercices de base sont hyper intéressants à travailler.
D'un point de vue athlétique aussi, mettons, tu t'entraînes parce que tu joues dans ta game de hockey ou tu joues au soccer ou au football, au flag football à la limite, c'est à ne pas négliger là, pour le sprint puis les accélérations rapides.
Oui, exactement. C'est toute la transférabilité de ce que tu vas faire en salle. Si tu améliores ta force, ta puissance au niveau de tes fessiers, tes quads, tes ischios, on va être capable après ça de transférer vers le sport qui va être présent, en faisant des transitions, en faisant des exercices qui vont être progressifs là-dedans. Mais ça a sa place. Il ne faut pas que tu crées... Tu es aussi fort que ton chaînon le plus faible. Donc, ça fait qu'il faut que tu travailles tous tes chaînons pour être sûr d'avoir la meilleure chaîne possible.
Est-ce que c'est possible de réussir à prendre de la masse à la maison? Mettons, là, j'ai pas un gros un gym à la maison. Là. Je comprends que si j'ai tout le même équipement que j'ai au gym à la maison, évidemment, la réponse est oui. Mais mettons que j'ai juste quelques poids, j'ai le poids du corps, j'ai peut-être un sac à halter, un sandbag ou des trucs comme ça. Je peux-tu m'en sortir puis réussir à prendre de la masse?
La réponse va être, ça dépend c'est qui, parce qu'une personne qui a un faible niveau d'entraînement, son poids de corps, ça va être une bonne charge pour lui. Là. Donc, ce qui veut dire que ça va donner un bon challenge, ça va donner une bonne tension mécanique, ça va causer des dommages, donc lui, il va être capable d'aller chercher un gain. Mais on s'entend, pour toute personne, s'entraîner à la maison, exemple, un an, les premiers mois, tu peux avoir des gains, après ça, tu as un plateau, parce que là, tu es limité. Je veux dire, ta charge, c'est ton poids de corps, fait que tu t'entraînes toujours avec la même charge. Là, tu peux essayer de faire différentes stratégies d'entraînement. Donc là, tu vas t'axer sur le stress métabolique, mais ce n'est pas lui le facteur principal qui fait prendre la masse musculaire, c'est la tension. Fait que ce qui fait que là, tu peux avoir des élastiques, oui, ça va être là, c'est d'avoir différentes tensions d'élastiques, mais c'est possible, ça va être plus fastidieux parce qu'il faut que tu trouves les bons élastiques pour toi. Parce qu'avec l'élastique, on va être capable dans les plus petits groupes musculaires, donc un bicep, un tricep, un épaule, mais sérieusement, une personne qui lève 300 livres au bench press, même s'il y a des élastiques à forte tension qui ont 50 livres, ça ne sera jamais suffisamment. Ça sera parce que puis la tension aussi doit être présente lorsque le muscle est étiré. Fait que c'est là que ça crée aussi une bonne part des dommages. Fait que si j'installe mon élastique en arrière de moi sur une poignée de porte, puis je viens faire des presses, quand je suis rendu ici, mon élastique est détendu. Puis quand je suis rendu à la fin, il est tendu. Fait que je n'ai pas la tension qui est constante partout. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est possible dans les débuts, tout dépendant de l'expérience de l'athlète. Moins que l'expérience est grande, plus les gains peuvent être présents. Mais moi, exemple, je m'entraînerai à la maison, je ne prendrai pas de la masse musculaire. Je pourrais peut-être la maintenir par un travail musculaire. Je ne maintiendrai pas ma force, mais je pourrais maintenir ma masse musculaire.
C'est important de prendre des suppléments alimentaires? C'est obligatoire, mettons, si je veux
prendre de la masse musculaire? T'sais, dans un contexte, le mot supplément le dit, c'est un supplément à l'alimentation. T'sais, tu ne peux pas commencer à dire « OK, je m'entraîne, je vais prendre des suppléments ». Si tu manges des croquettes pour dîner, là, je veux dire, tu ne peux pas penser à avoir une grosse cuisse en faisant un leg extension si tu ne fais pas de squat. Je veux dire, il faut que la base soit contrôlée et présente. Donc, les suppléments deviennent en deuxième. C'est des compléments à l'alimentation. Est-ce qu'ils ont leur intérêt? Oui. Donc, par la multitude d'études que j'ai vues, ça va avoir en apporté un gain. Autant que ce soit la vitamine D, les oméga-3, les protéines en poudre vont aider au processus de gain de masse musculaire. Est-ce que c'est essentiel? Au lieu de prendre la protéine en poudre, je pourrais prendre du poulet ou du thon. Est-ce qu'une banane, c'est essentiel? Ben non, je pourrais prendre des fraises, une pomme. Fait que c'est un peu ça. Ça reste un choix, une alternative qu'on est capable de faire. Les oméga-3, c'est essentiel. Tu manges-tu un petit 100 grammes de poisson par jour? Non, c'est OK. Ça a un impact sur l'inflammation qui est causée au niveau du muscle. Ça a un impact indirect pour aider à promouvoir la masse musculaire. Si tu n'en prends pas, tu vas prendre la masse musculaire tout de même. C'est juste que l'oméga-3 va avoir un impact pour l'aider davantage. Fait que c'est celui qui veut vraiment maximiser a des options de suppléments qui vont favoriser. Celui qui ne veut pas nécessairement maximiser parce que c'est pour personnel, augmenter tranquillement, pas pressé, les suppléments ne sont pas nécessairement obligés d'être présents.
Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui commence, mettons, de commencer sans supplément, de faire, mettons, je ne sais pas, quelques mois sans supplément, puis là, quand il sent qu'il n'atteint pas un plateau, parce que je comprends que si tu commences, tu pars de rien, après 3 mois, tu n'es pas rendu à un plateau, mais mettons, de prendre, ça a-tu du sens de recommander de prendre un peu d'expérience avant d'ajouter des suppléments, tu sais, puis de gagner ce que tu as gagné sans supplément, puis après ça, de les ajouter?
Ça a du sens, oui, ça a du sens. Encore là, on peut commencer aussi en même temps. Moi, ce que j'aime pas, c'est la catégorisation qui a été faite, par exemple, des protéines en poudre comme supplément. Moi, je ne l'appelle pas un supplément, c'est un autre choix alimentaire. Je veux dire, c'est du lait déshydraté. Tu vas dans les centres hospitaliers, puis les personnes qui ont de la dysphagie, qui ont de la difficulté à avaler, ne peuvent pas masticer, manger des aliments, ils vont prendre du lait en poudre. Mais sur le sac, c'est marqué lait en poudre. Ah, OK. Fait qu'au lieu de leur donner du poulet, on donne du lait en poudre, du lait déshydraté. Les Enfamil, Enfalac pour les enfants, c'est du lait en poudre. Fait qu'on on dirait qu'on le considère plus comme une partie de l'alimentation. Mais quand on arrive chez les sportifs, ce même pot de protéines-là, de lait en poudre, là, ça devient un supplément, puis de si, puis on doit... c'est de la farine, là. C'est des glucides en poudre, là. Mais c'est pas un supplément.
T'as raison.
Non, mais je veux dire, c'est comparant des pommes avec des pommes. Fait que pour moi, de la protéine en poudre, du lait déshydraté, n'est pas un supplément. C'est une option pour aller chercher une source de protéines. Tu veux prendre la format déshydraté parce que c'est plus accessible puis facile pour toi, ton travail, tu fais juste mettre ça, tu as de l'eau, tu as une source de protéines, que de faire cuire un morceau de poulet, que d'ouvrir une canne de thon qui empêche tout le monde. Fait que si pour toi, c'est l'option facile, fine, mais je vois pas ça comme un supplément, je vois ça comme étant une option de l'alimentation normale. À la limite, je trouverais plus une croquette un supplément, parce que c'est pas de l'alimentation, c'est un ramassis industrialisé. Mais la protéine en poudre, qui a juste une étape, qui est une filtration, la protéine en poudre, c'est pas du lait en poudre, là, c'est... Le lait contient deux protéines, la casine puis le lactosérum, le petit lait. Fait que c'est juste une. Fait que je veux juste, mais sinon, ça reste le même principe. Là. C'est un aliment. Mais est-ce que c'est obligé? Non. Est-ce que ça aide pour le côté récupération musculaire? Oui, mais c'est pas...
Mais je comprends ce que tu dis d'un point de vue pratique. C'est aussi peut-être une question de branding, dans le sens que, tu sais, quand la marque de protéines a fait son branding... Elle ne te présente pas ça comme si c'était juste du lait déshydraté. Là. C'est une question. Eux autres, ils disent comme c'est mis en marché d'une façon à t'aider à prendre la masse musculaire. Là.
Les couleurs vont être vives, avoir des éclairs, des scies, power. Puis il va y avoir aussi l'association avec les culturistes, donc les culturistes de haut niveau, avec les stéroïdes, etc. La population est mélangée. Il y en a qui associent pratiquement les protéines en poudre avec les stéroïdes, les effets qu'ils pourraient avoir sur la santé. Fait qu'ils sont comme c'est pas bon, ça pourrait être. Un petit peu, s'il arrive quoi que ce soit dans le monde du culturiste, c'est pas à cause des protéines en poudre, là, c'est peut-être à cause des autres substances qu'ils prennent, les mélanges qu'ils font, mais c'est pas à cause du lait déshydraté. Sinon, on va aller à l'hôpital arrêter les personnes dysphagiques en consommer, puis on va surveiller les bébés d'un an parce qu'ils en prennent tous ou presque.
Puis, tu sais, du lait déshydraté, il y en a à l'épicerie, là. Il y en a dans des sacs maxi, le choix du président, là. Puis, tu sais, c'est pas présenté comme un supplément du tout, mais. Finalement, c'est sensiblement la même chose.
Comme je te dis, la farine ou du sucre, c'est la forme la plus simple de glucides. De l'huile, c'est la forme simple de lipides, donc de graisse. Fait que les protéines en poudre, c'est la forme simple de niveau des protéines. Donc, c'est plateau égal. À l'inverse, j'aimerais bien plus qu'on l'utilise dans notre mode de cuisson, nos modes alimentaires, la protéine en poudre, qu'on intègre dans nos muffins un scoop pour être capable d'avoir des muffins plus riches en protéines. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. T'sais, dans le monde actuel, avec le nombre de maladies qu'on a, d'obésité, de diabète, etc., on a une grande problématique de surconsommation de glucides. On n'en parle pas, il faut taper sur les protéines, on en mange trop, dépasse pas ton 1,2 g par kilogramme. Écoute, on mange des glucides à profusion, puis il n'y a pas de problème. Je veux dire, les protéines ont un effet de satiété, ils coupent la faim. Plusieurs études ont même analysé la recherche, de nouveau, pourquoi une personne va consommer des fois autant de calories. On se rend compte que si tu viens à consommer beaucoup de protéines, ta consommation de calories arrive vite. Tu ne veux pas, les protéines servent à beaucoup de choses dans le corps. Ils servent à construire les muscles, les tendons, le système immunitaire, le côté des globules rouges, les enzymes, la kératine pour les cheveux. Ils ont plein de fonctions au niveau du corps. Les glucides, eux, c'est principalement l'énergie. Ils n'ont pas de rôle structural. Donc, ce qui fait que c'est comme si la théorie dirait que lorsque tu as atteint ton niveau de protéines pour assurer ta survie au niveau des structures, tu n'as plus besoin de consommer un surplus d'aliments. Tu vas aller chercher une nouvelle énergie. Si tu manges que des choses riches en glucides, tu ne combles pas tes besoins en protéines, ce qui fait que tu vas avoir tendance à vouloir consommer pour aller chercher tes petites parties de protéines qui vont combler ton besoin structural. Fait que c'est un peu une théorie qui va dans ce sens-là, qui force les gens. Puis il y a d'autres facettes, là, c'est plus complexe que ça. Ce qui fait que d'intégrer des protéines va avoir un impact sur la satiété, sur couper la faim.
Ouais.
Plus important, tu vas réduire ton apport alimentaire, puis cette satiété-là va perdurer pendant des semaines. Je te fais faire 2 semaines avec une alimentation riche en protéines, puis après ça, je te dis, ben, mange ce que tu veux. Tu vas te rendre compte que j'ai moins faim. Pourtant, là, tu peux manger ce que tu veux. Là. La satiété reste. Donc, ce qui fait qu'il y a une importance d'intégrer des protéines, puis c'est juste qu'on les a tellement démonisées que, puis avec toutes les vagues de vegan, etc., là, ce qui fait que les gens se posent beaucoup de questions. C'est ce qui est fou dans l'alimentation. Tout le monde est semi-spécialiste, donc tout le monde peut donner son opinion, fait qu'on te trouve de tout. Tu veux chercher sur un volet, tu vas le trouver. Tu veux aller à droite ou à gauche complètement, tu vas trouver l'opposé avec d'autres sources.
Ouais.
Fait que ça devient mêlant, ça devient effectivement très mêlant.
Mais cette guerre-là contre les protéines, elle vient de où? Là, ça, c'est une question plus éditoriale, là, tu vas me dire, mais c'est, je veux dire...
En fait, il y a deux points. Il y en a un qui est l'American Heart Association, donc l'association américaine du cœur, qui avait mentionné dans les années 2000 qu'un surplus de protéines pouvait occasionner des problèmes d'ostéoporose, problèmes rénaux, problèmes d'hypertension, hein, des choses comme ça. Cette affirmation-là avait fait un peu boule de neige dans la communauté scientifique. Puis, il y a eu énormément d'études dans les 20 dernières années qui ont démontré le contraire. Au contraire, même quand une personne a des débuts de problèmes rénaux, on peut augmenter un petit peu le niveau de protéines parce que les reins sont composés de protéines pour aider la récupération. Ce qui fait qu'il y a différents éléments comme ça qui ont été fait que ça crée une controverse. C'est une nouvelle qui passe dans les médias. Les gens retiennent cette information-là.
Ouais.
Et il y a aussi le docteur Robert Atkins, le régime Atkins, probablement que tu connais, qui était très... Lui aussi, tu manges tout ce que tu veux. Tu peux manger de la viande, du poisson, des œufs, du lard, du beurre, du bacon. C'est juste qu'on reste les glucides bas. Fait que c'est comme considéré un régime riche en protéines. Puis, le docteur Atkins est mort. Ben, il est mort, selon les spéculations, c'est qu'il a glissé sur une plaque de glace à New York. Il en est décédé. Il pesait 258 livres. Puis, il avait eu des maladies cardiaques dans son historique antérieurement. Donc là, les gens disaient, OK, mais là, si un régime riche en protéines est si bon, pourquoi qu'un cardiologue aurait des complications cardiaques? Fait que là, ça remettait en doute les régimes hyperprotéinés, mais ça, c'est de regarder la chose de façon très simpliste. Le régime Atkins n'est pas juste hyperprotéiné, il est hyper gras aussi. Et ce qui arrive aussi, ce que j'aimerais quand même qu'on démystifie au niveau des viandes, parce que des fois, on tape sur le clou et ça me sidère parce qu'on... Tu sais, il y a eu une époque là où on pensait que le café, là, plus tu consommais de café, plus tu étais à risque de mortalité. Donc, plus ton risque de maladie était élevé. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que les plus grands consommateurs de café étaient aussi les plus grands fumeurs. C'est plus la cigarette qui causait le cancer. Le café, plus on en consomme, plus on diminue le risque de mortalité. Donc, il y a des biais comme ça qu'il faut. C'est pas à cause qu'il y a une corrélation qu'il y a une causalité. Donc, c'est pas parce que je vois qu'il y a un lien. Je peux regarder, il y avait bien des comparaisons qu'il faisait à la blague, le nombre de films de Nicolas Cage avec le nombre de noyades aux États-Unis, puis les deux courbes se suivaient. Aucun lien. Fait que c'est un peu ça qu'il faut aller chercher plus loin. Puis actuellement, au niveau de la viande, ce qui est problématique avec les études et les conclusions qu'ils en sortent, c'est le fait que, exemple, la viande rouge, les charcuteries, les saucisses, etc., alimentation transformée, on met ça de côté. Mais tout ce qui est viande, il y a une chose que les chercheurs ne prennent pas en considération, c'est quand on fait des études rétrospectives, des études qu'on revient vers l'arrière pour analyser les habitudes alimentaires d'une population, puis on dit, telle population prend plus de protéines, mange plus de viande animale, a plus de cancer. La chose qu'ils n'analysent pas et qui ne dissocient pas, c'est le mode de cuisson. Parce que dans la cuisson, quand on fait des cuissons à haute température, tu fais un barbecue à la maison, les boulettes flambent, des composés calcinés qui sont là, ça crée une molécule qu'on appelle l'acrylamide. Et l'acrylamide est pro-inflammatoire, cause des dommages intestinaux et provoque un vieillissement cellulaire et donc une augmentation des maladies. Ce qui veut dire que si je fais une cuisson de ma viande en haute 120 degrés Celsius, c'est 240, 250 Fahrenheit, je crée ces composés-là. Donc, c'est sûr que plus j'en consomme, plus je vais avoir des risques sur ma santé. Si je consomme des tartares à tous les jours, même si c'est du bœuf, il n'y aura pas de risque sur ma santé. Là, on pourrait parler de nouveau du fer chez les hommes qui peuvent être accumulés. Donc là, ça sera à nous de faire un don de sang pour essayer de ne pas avoir ce surplus de fer-là qui peut être oxydatif. Mais dans l'ensemble, si on analyse les protéines, la protéine en soi d'une viande n'est pas dommageable. C'est le mode de cuisson qui est dommageable. Aujourd'hui, les barbecues, c'est le pire mode de cuisson. Le gras coule sur les plaques, ça chauffe et ça vient se recoller.
Ouais.
C'est comme s'il y avait 50 cigarettes qui étaient en dessous qui fumaient la viande. Je comprends, c'est événementiel, c'est plaisir extérieur, mais un bon barbecue devrait avoir une grille de cuisson sur le côté. Ça chauffe à l'horizontale, comme ça le gras tombe en dessous. Ça existe déjà, mais je ne sais pas si c'est un côté marketing ou continuer à écouler le stock. Bref, c'est juste pour dire que le mode de cuisson est excessivement important dans les viandes. Je ne les bannis pas, mais c'est juste de faire des cuissons longues, les mijoteuses, des choses comme ça qui sont plus intéressantes.
OK, crème, c'est super intéressant. Ben ouais, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui est bouilli, évidemment, tu ne pourras pas.
Température de l'eau, c'est 100.
C'est maximum 100 degrés.
Exactement.
Tu n'arriveras jamais.
On mange de la fondue.
Ben, c'est drôle, tu me fais penser. tu sais, on parle souvent des régimes, ben, des gens qui vivent longtemps à l'île d'Okinawa, ouais. Mais tu sais, au Japon. Mais moi, je travaillais dans un restaurant japonais, fait que là, j'en parle, je plug ça. Mais on mangeait souvent, comme dans les staff meals et tout ça, c'était pas vraiment présenté aux clients, mais justement, de la fondue, des sukiyaki, là, qu'ils appellent, mm-hmm. là, comme qui est un mélange de légumes, de viande bouillie et tout ça. En tout cas, je te dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais ça me fait penser à cette histoire-là. Fait que,
mais faut quand même, c'est ça, faut quand même garder en tête, justement, la région d'Okinawa qui contient ouais. le plus de centenaires sur la planète. Ouais. C'est de voir un peu c'est quoi leur habitude de vie. C'est plus que l'alimentation, c'est l'hygiène de vie en général, ouais. c'est le stress, la méditation, les. Fait que c'est ça. Mais il faut quand même analyser, bon, est-ce que ça pourrait être intéressant, est-ce que ça peut faire partie? Comme je te dis, il y a toujours. C'est pas parce qu'on remarque quelque chose chez une population que c'est automatiquement la causalité.
Ouais. Après ça, j'ai une question là, très difficile. Là, moi, j'ai entendu parler de recomposition corporelle. Je me suis un peu demandé c'est quoi que ça voulait dire. Mais dans le fond, ce que je comprends, là, c'est que... En fait, ma question, c'est est-ce que c'est possible de gagner de la masse musculaire puis en même temps perdre de la masse adipeuse?
Le corps est capable de le faire. Donc, c'est possible. C'est des choses que j'ai très bien vues dans ma pratique là, de suivre une personne, augmenter sa masse musculaire et on voit la composition qui change totalement. Donc, c'est un changement, une modification de la composition corporelle, c'est que ta composition corporelle change. Donc, tu as un certain pourcentage de graisse, certain pourcentage de muscle, puis là, on va essayer de diminuer un puis augmenter l'autre. Comme je l'ai dit, augmenter la masse musculaire, c'est pas facile. Ça demande une stratégie plus efficace. Donc, ce qui fait que c'est sûr que si tu viens à... je vais donner le concept, là. Tu veux perdre la masse adipeuse, tu veux perdre du gras. Donc, ce qui veut dire que, généralement, tu vas dépenser une certaine quantité de calories, il faut que tu manges un peu moins. Bon, c'est sûr que l'idéal, c'est, je ne rentre pas dans tous les concepts, là, mais tu as un métabolisme de base qu'il ne faut pas que tu descendes en bas de. Fait que le but, ce n'est pas de moins manger, le but, c'est de te trouver entre les deux, d'assurer ta survie, donc te donner assez d'énergie pour faire vivre tes fonctions vitales, fait que ton métabolisme ne se sent pas en danger. Mais tu en manques un peu pour ta journée, tu as bougé, tu as fait du sport, fait que ça fait que tu as un déficit qui est là. Fait que il faut que tu crées un déficit pour être capable de forcer ton corps à utiliser ses réserves. Mais quand tu veux maximiser ton gain de masse musculaire, il faut que tu prennes idéalement entre 300 et 500 calories de plus que ce que tu dépenses. Parce que ton corps, une cellule musculaire, c'est une cellule qui demande d'énergie, beaucoup plus qu'une cellule adipeuse. Fait que là, tu dis à ton corps en mode de déficit, OK, tu me fournis même pas assez d'énergie pour faire vivre tout ce que j'ai en ce moment en termes de dépenses, puis tu veux que je te construise des nouvelles cellules qui vont me demander encore plus d'énergie? No way. Le processus va suivre son cours, mais il va être limité. De façon naturelle, là, il va vraiment être limité. Fait que ça fait que tu peux en gagner, mais tu n'optimises pas ton gain de masse musculaire. Fait que c'est souvent les gens qui veulent vraiment maximiser leur composition corporelle vont faire une phase d'hypertrophie où que là, on consomme 300 à 500 calories de plus dans cette phase-là pour potentialiser le gain de masse musculaire. Donc, c'est ce qui fait que le corps ne fait pas du muscle à 100%. Donc, il va y avoir une petite construction de graisse qui va se faire à côté. Et après ça, une fois qu'on a construit la masse musculaire avec un petit peu de gras, bien là, on tombe en phase de perte de masse adipeuse. Ça fait que là, je vais venir enlever la graisse par-dessus le nouveau muscle que j'ai construit. Ça fait que je finis au final, après 6, 7, 8 mois, 1 an, 2. À la fin, je finis avec une composition corporelle qui est changée, mais beaucoup plus potentialisée parce que j'ai augmenté ma masse musculaire pendant, exemple, un an et demi, puis après ça, pendant 6 mois ou 3 mois, où j'ai fait une phase de sèche, ce qui fait que je vais avoir un meilleur résultat que pendant 2 ans, essayer de faire un peu des deux. T'sais, parce que c'est tout le temps ça, le bémol. Tout le monde veut être musculaire et être sec. Fait que tout le monde veut prendre la masse, mais il ne veut pas trop engraisser parce que ça change le look. Fait que c'est tout le temps la merveilleuse plage de l'été là, qu'on veut toujours être prêt. Fait que c'est toujours ça qui sacrifie. Fait que c'est l'analyse. Fait que ça peut se faire.
Mais je suis content que tu me dises ça parce que j'avais comme peur, parce que dans ma tête, là, c'est deux choses que tu ne pouvais pas faire en même temps. Parce que dans le fond, c'est soit tu es en anabolisme, là, ton métabolisme, il construit des nouvelles cellules, ou bien il est en catabolisme puis il en détruit, si on veut, ou il en élimine. Là, moi, maintenant, je vois une contradiction quand on dit faire les deux en même temps, mais dans le fond, ce qui est optimal, c'est de faire un puis l'autre après.
Est-ce que ça, c'est optimal? Mais tu peux, tu sais, le corps n'est pas en catabolisme et en anabolisme. Il est juste en mode dégradation ou en mode construction. Il peut être en mode dégradation de la graisse, mais construction du muscle. Ce qui fait que c'est, comme je te dis, les processus dans certains organes vont être différents, mais ils ne seront pas maximisés si le nombre de calories. Parce que le nombre de calories est vraiment important. Même dans la prise de masse musculaire, tu as beau prendre tes 1,6. Idéalement, les recommandations, c'est 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Là, mettons ton poids en livre, là, en termes de protéines. Mais si tu les consommes tu consommes ton bon nombre, tu pèses 200 livres, tu manges 200 grammes de protéines, par exemple, par jour, mais tu ne manges pas tes calories suffisantes, tu auras de la difficulté à prendre de la masse musculaire. Il faut vraiment que ces éléments-là soient ensemble. Ce n'est pas juste une question de protéines, c'est une question de calories aussi. Puis c'est une question aussi de gras. Idéalement, les graisses, les lipides, c'est 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Tu pèses 90 kilos, c'est 90 grammes. Pour que tes graisses soient... Parce que les graisses font quand même partie de plein de cellules. Tu sais, ça synthèse toutes la testostérone, les estrogènes, la progestérone. Il va aussi avoir les acides biliaires qui vont être là. Ils ont beaucoup de rôles au niveau de même de la cellule. Il y a des phospholipides, c'est des membranes. La membrane de la cellule, c'est des graisses qui sont présentes. Fait qu'ils vont avoir leur importance. Si tu manges beaucoup de graisses saturées et gras trans, ça va créer... Des acides gras qui sont raides, qui ne sont pas malléables. Donc, ta structure, tes cellules ne seront pas malléables. On aura de la difficulté à faire pénétrer les hormones dedans. Ce qui fait que tout est interrelié. Tu peux manger des graisses, mais pas les bonnes. Puis, avec toutes l'huile d'olive, les oméga 3, les choses comme ça, c'est là que ça vient augmenter la fluidité des membranes des cellules. Donc, une meilleure, on appelle ça une perméabilité. Donc, permettre le passage d'éléments à l'intérieur, comme les hormones, pour être capable de faire leur action à l'intérieur de la cellule. Fait que plus j'ai une membrane qui est dysfonctionnel parce que je ne mange pas bien, ben moins je vais avoir de bénéfices. Fait que c'est tout ça. C'est là que ça devient compliqué sur le plan du gain de masse musculaire. Puis au niveau des femmes aussi qui contiennent 10 fois moins de testostérone, ben c'est sûr que là, ça limite encore plus. Fait que ces personnes-là doivent être encore plus vigilantes sur tous les autres petits aspects parce qu'ils n'ont pas l'environnement hormonal qui est favorable pour augmenter leur masse.
Je comprends. Fait que dans le fond, c'est possible, mais mettons, là, je vais prendre un cas très typique. Là. Mettons, je veux arriver avec une shape de plage au mois de mai-juin. Dans le fond, il faut que je commence idéalement longtemps d'avance pour avoir le temps de faire les deux phases. Une phase où est-ce que je vais prendre de la masse musculaire, puis une phase où est-ce que je vais comme affûter ou je vais sécher.
Exactement.
Ou,
tu pourras faire ça. Tu pourras faire un 10 mois de prise de masse musculaire, 2 mois où ce que tu viens enlever un peu de graisse. Tu sais, tu perds 1 livre semaine, sur 8 semaines, tu perds 8 livres. Il faut juste que tu te maintiennes quand même assez bas en termes de pourcentage de graisse durant l'année. Fait que le but, c'est pas de monter à du 25-30%. Tu sais, je pense que mon but, c'est d'être durant l'été en bonne condition physique, tu vas être capable de te garder. Puis un 300-500 calories de plus par jour, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. C'est une livre de graisse, c'est 3500 calories. Fait que si tu veux mettre 300 calories de plus par jour, fois 7, 2100, on n'est même pas une livre. Puis là-dedans, le corps va utiliser une bonne partie pour construire une nouvelle masse musculaire. Fait que qu'est-ce qui reste de résiduel et pas. Fait que ça fait que sur 10 mois, là, tu vas être capable de reperdre ton 8-10 livres, exemple, que tu vas peut-être avoir accumulé. C'est pas tous les athlètes qui vont, les personnes qui réagissent de la même façon. Il y en a qui ont un métabolisme plus rapide. Donc, ça fait que l'accumulation se fait beaucoup moins grande. T'sais, les personnes, comme je disais, endomorphes, qui sont plus un joueur de football de ligne, eux, ils vont emmagasiner un petit peu plus rapidement. Donc, ça fait qu'eux, ça fait attention. Une personne, un marathonien qui lui mange 300-500 de plus pendant la masse musculaire, même lui, j'augmenterais. Chez les débutants, les études ont même monté jusqu'à 2000 calories de plus par jour. Tu as besoin de 2000 calories dans ta journée, je t'en donne 4000. Okay. Sérieusement, les gains en masse augmentaient, puis le gain en graisse n'était pas si élevé que ça, étonnamment. Okay. Fait que tu fais sur 8 semaines, fait que tu fais OK, mais c'est que les débutants ont tellement de synthèse protéique, les dommages musculaires sont tellement importants où la croissance, il y a quelque chose de. C'est pour ça qu'une personne qui a une génétique défavorable, on pourrait monter un peu plus. Tu commences avec une base de 300-500 de plus que tu as besoin, puis après ça, ça réagit bien ou tu perds du poids, on va monter à du 600-700. On y va progressivement. Le but, c'est d'avoir, j'appelle ça dans n'importe quoi, la dose minimale effective. C'est quoi la dose minimale qui va me permettre d'avoir les effets, les résultats maximum? Parce que autrement, je veux dire, si justement, si on prend les protéines, je veux dire, c'est 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps idéal, puis tu en prends 4, pour le moment donné, je veux dire, si t'es pour avoir les mêmes résultats, ben, tu prends un surplus qui n'est pas nécessaire, parce que c'est grave. Tu sais, c'est là, c'est une autre chose. Mais sinon, c'est quoi la dose minimale pour tout ça?
Crème, ben merci, Kevin. C'est vraiment intéressant tout ça. J'ai le goût, on dirait, d'en savoir plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement te suivre si on veut en savoir plus? Offres-tu des formations, des trucs comme ça?
Oui, bien là, c'est sûr que 2022, avec la COVID, avec tous les événements, donc ce qui fait que ça s'est beaucoup redirigé. Je fais moins de terrain, donc ça fait déjà 20 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement et de la nutrition. Donc, ce qui fait que je me suis redirigé dans la formation. Donc, j'avais déjà écrit un livre depuis 2013, donc ça fait déjà, on parle de 7 ans, 8 ans, que le livre a été écrit, republié en 2020 avec les éditions Amphora. J'ai toujours eu un intérêt pour la formation. J'ai été conférencier avec la Fédération des kinésiologues du Québec à certaines reprises. Donc là, je me consacre sur une école de formation qui est l'Académie des entraîneurs. Donc sur www.adentraineurs.com. L'école actuellement va prendre son envol 2022. Elle existait déjà auparavant avec un autre formateur. Là, ça va être moi qui va prendre les rênes. Donc, tout le contenu va être refait de A à Z avec 3 niveaux d'entraînement, 3 niveaux de nutrition. Chaque niveau est une fin de semaine. Donc, vous allez avoir en vrai 12 à 15 heures de contenu par niveau. Niveau 1 entraînement qui est les bases théoriques d'entraînement. Le niveau 2, c'est toute l'explication des exercices musculaires, les tests musculaires, flexibilité, exercices avec des mouvements instables, etc. Puis le niveau 3, c'est comment concevoir un programme d'entraînement, les principes de la planification. Puis niveau en nutrition, on a les bases de la nutrition, on a la nutrition avancée, les suppléments, les techniques de niveau diététique pour être capable d'être un sportif de puissance, de force, d'endurance, etc. Puis le niveau 3, c'est la conception d'un plan alimentaire, toujours chez des personnes asymptomatiques. Fait que c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Fait que c'est le lancement en ce moment, mi-février, on va avoir déjà le niveau 1 musculation qui va être fait. Et à chaque mois, un nouveau niveau va apparaître. Très excité, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aime vulgariser l'information, j'en connais beaucoup par mon parcours, par mon intérêt. C'est mon domaine, c'est ma passion. Fait que je pense que les gens, et j'espère que les gens vont apprécier le contenu. Mais si on veut me suivre, c'est vraiment sur le réseau de l'Académie des entraîneurs qui va être mon principal volet parce que le terrain va vraiment être diminué pour me consacrer davantage sur ce point-là.
OK, ben c'est très cool. Parce que, mettons, moi, en termes de musculation, justement, t'es comme ma référence, là. Fait que je pense que ça va être très intéressant. Je sais que ça s'adresse surtout à des... On en parlait un petit peu avant de commencer l'entrevue, à des comme des entraîneurs de fin de semaine, mais j'imagine quelqu'un qui veut l'apprendre pour lui-même, pour ses connaissances personnelles, ça peut fonctionner aussi.
Oui, exactement. C'est pour toutes les personnes qui vont s'intéresser de près ou de loin à l'entraînement, la nutrition. Je veux dire, d'exemple, dans le cours de niveau 1, niveau de la musculation, je vais parler de physiologie de l'exercice. Donc, l'entraînement aérobie, anaérobie, je vais parler de la biomécanique, comprendre s'il y a un déplacement de la charge par rapport à ton point de levier, ton point de pivot, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Je donne un cours de 6h30 sur l'anatomie. Donc, je présente les muscles, les artères, les veines, les nerfs, les tendons, ligaments. Donc, je présente toutes les structures du corps avec des vidéos. J'ai un logiciel 3 dimensions qu'on est capable de voir les couches superposées. Donc, ça peut servir aussi de formation continue au KIN, qui ne se rappelle plus nécessairement OK, c'était quoi. Puis de voir aussi, moi qui ai continué à lire depuis toutes les années, ce que j'ai pu découvrir, comment je présente les choses. Donc là, ce qui fait que c'est du gros contenu. Fait que c'est 12 à 15 heures par formation. Même juste au niveau de la nutrition, là, donc présenter les protéines, les glucides. Je parle des suppléments. J'ai un cours sur les suppléments de base. Je vais parler d'oméga 3, vitamine D, protéines en poudre, multivitamines. Donc, on parle le besoin réel de tout ça, les points sur les i à certains égards, le système digestif, donc les probiotiques, donc les gens qui veulent en savoir plus. Bien, ça va être quelque chose d'être vraiment intéressant là, pour une fin de semaine de formation, mais qui se fait totalement à distance. Donc, c'est à la maison, à votre rythme. Donc, c'est quelque chose de... On est rendu là. En 2022, on est rendu là. Donc, c'est les fins de semaine de formation sont moins prisées. Ça ne demande pas... Il n'y a pas de temps de déplacement, de temps l'hôtel, le gaz. Pour le formateur aussi, c'est différent. Fait que c'est vraiment une belle occasion que j'ai eue de me joindre à cette équipe pour amener mes connaissances. Donc, chacun... Ça va être vraiment un autre niveau.
Ça va être du sérieux.
Oui, ça va être du sérieux.
Merci beaucoup, Kevin, pour tout ton savoir. Je suis sûr que ça va être apprécié. Puis, je te souhaite bonne chance dans... ton nouveau projet.
Merci beaucoup. Puis à toi aussi, éventuellement, dans tes organisations d'événements de course, là, on souhaite que ça réouvre sous peu.
Peut-être à un moment donné.
Merci, Kevin. Ouais, ça fait plaisir. Salut, Dan.
Salut.